Je connais une poésie de poisson. Un poisson qui s'appelle Bubule. Et toute la journée, il fait des bulles. Sacré Bubule.
Je m'appelle Bubule.
Après Bubule, nous allons écouter Stromae. Le titre est « Bienvenue chez moi ». C'est parti !
Bienvenue chez moi.
Ces quatre murs en plastique sont pleins de papiers, de tas de piques, de tas de feuilles à moitié mortes, à moitié bourgeons, à moitié fortes. Un jour verte, un jour brune, noir, jaune, rouge et un jour plume. D'humeur légère, d'humeur profonde, d'humeur amère.
Bienvenue chez moi.
D'humeur vénère, d'humeur sainte, mais aussi vraie donc vulgaire. À la fois brute, à la fois pure, à la fois laxiste, à la fois dure, à la fois basse, à la fois haute, à la fois douce et à la fois rock, à la fois jazz, à la fois rock ou électro.
Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi, chez moi.
Quatre murs, y a des tas de choses. Peu de livres, mais des tas de prose. Trop de pensées pour si peu d'écrits. Et si peu de pays pour tellement de roses. Y a des salles jaunes, des salles noires, des salles rouges et des salles blancs. Et il y a surtout que des gros bâtards devenus rouges sans.
Bienvenue chez moi.
Comme moi, comme toi, comme nous. Des hommes chiens devenus hommes loups. Des femmes hyènes voulant être belles et encore plus superbes à se rendre fou, à se rendre folle, à se rendre conne, à se vendre bonne, à faire tout comme. Et ces imbéciles, et bien court toujours, et c'est ça l'amour.
Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi, chez moi. Bienvenue chez moi.
On écoute maintenant une histoire de Marlène Jobert. Le titre est L'Esquimau. Allons-y.
Tout en haut de la Terre, au pôle Nord, dans le pays des glaces, il fait tellement froid qu'une partie de la mer gèle. C'est ce qu'on appelle la banquise. Au pôle Nord, donc, Outak, le petit Esquimau, est chez lui quand il entend frapper à sa porte. C'est Sakari, sa petite voisine. Elle vient le chercher pour lui montrer son nouvel ordinateur.
Un ordinateur ? Oh, ils ont des ordinateurs dans leur igloo, les Esquimaux ?
Ils n'habitent pas dans des igloos, tu sais, petit Pierre. Ils en construisent seulement lorsqu'ils sont à la chasse ou à la pêche. Sinon, ils ont des maisons confortables, avec la télévision, le chauffage, comme toi. Outak aimerait bien aller chez Sakari. Mais demain, son papa l'emmène pour la première fois avec lui à la pêche. Et il lui a promis de l'aider pour les préparatifs. Ce matin, Outak est réveillé par les chiens. Dehors, son papa est déjà en train de les atteler au traîneau. L'heure du départ approche. Outak enfile ses bottes, ses moufles et son gros anorak en poil de phoque.
Il fait froid comme au ski sur la banquise ?
Beaucoup plus froid que dans nos montagnes, petit Pierre. Là-bas, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 50 degrés. Outak aide son papa à attacher Nanook. Nanook est le plus jeune de leurs chiens, son préféré. Pour lui aussi, c'est la première grande sortie. Outak lui chuchote à l'oreille des mots doux pour l'encourager. Nanook lui répond par un grand coup de langue sur le nez, ce qui veut dire en langage chien
« Je suis aussi content que toi de partir à la pêche ».
C'est prêt. Outak et son papa ont emporté de quoi manger et boire. Heureusement, le livreur d'eau est passé tôt ce matin.
Le livreur d'eau ? Mais ils n'ont pas l'eau dans leur maison, les Esquimaux ?
Et non, petit Pierre. Le sol est gelé toute l'année et le froid ferait exploser les tuyaux dans le sol. Alors, un camion-citerne passe dans chaque maison pour remplir une cuve. Le papa de Sakari, qui a aussi l'intention de partir à la pêche avec sa petite fille, met de l'essence dans sa motoneige toute neuve. La plupart des Esquimaux en ont une. C'est un gros scooter avec des skis à la place des roues. Mais le papa d'Outak, lui, préfère son traîneau, comme son père et son grand-père. Il va moins vite, c'est sûr, mais il fait beaucoup moins de bruit. Une fois sur la banquise, Outak et Sakari s'installent sur la glace avec leur canne à pêche au bord d'un trou.
Et ils vont pêcher quoi ?
Des harengs, des saumons...
Des phoques ?
Ah non, ils sont beaucoup trop lourds. Avec leur petite canne à pêche, sûrement pas. Il faut un harpon et une sorte de lance terminée par une flèche. Mais ça, il n'y a que les papas qui ont le droit de s'en servir. Outak et Sakari attendent. Ah, ils sont là depuis une heure et ils n'ont pas attrapé un seul poisson. Ils commencent à s'ennuyer. Outak propose d'aller voir Nanook, qui est resté près du traîneau. Il doit sûrement trouver le temps long lui aussi. Mais en arrivant au traîneau, Outak ne voit pas son chien. Il l'appelle.
Nanou ! Nanou !
Pas de Nanouk. Au loin, un gros morse le regarde.
Tu crois que c'est lui qui a mangé Nanouk ?
Lui, non. Il n'aime que les coquillages, les crabes et les étoiles de mer. Outak est très inquiet. Et si Nanouk était en danger ? Il aperçoit des traces de pattes sur la neige et il décide de les suivre. Mais son papa, qui est en train de construire un igloo avec le papa de Zachary, lui crie
« Reste ici, Outak ! Tu risques de te perdre ! Viens plutôt nous aider ! La tempête approche, il faut que l'on ait fini avant la nuit !»
Les enfants lèvent la tête.
En effet, d'un seul coup, le ciel est devenu tout noir. Le vent soulève des nuages de neige. Ah, il faut se dépêcher. Avec leurs grands couteaux, les papas découpent des blocs de neige bien durs. Puis ils les empilent les uns sur les autres pour former un petit abri tout rond, avec des trous d'aération, mais pas de porte.
Bah, comment ils vont faire pour entrer alors ?
Ils ont creusé un tunnel sous la glace qui aboutit dans l'igloo, petit Pierre. Comme ça, l'air ne rentre presque pas. Il n'y fait pas froid, tu sais, à l'intérieur. Il y a un réchaud à gaz et des couvertures en fourrure. C'est très confortable. On y dort même très bien. Enfin, pas quand on fait comme Outak un affreux cauchemar. Il rêve que Nanouk se bat tout seul dans la nuit contre une meute de loups polaires. Au petit jour, son papa vient le réveiller.
Outak, vite, lève-toi. J'ai une surprise pour toi.
Mais Outak s'en moque. Il en a vraiment assez de cette partie de pêche. Et sans Nanouk, il est trop malheureux. Il préfère rentrer à la maison. Il sort de l'igloo en boudant la mine renfrognée.
Quand soudain, un chien lui saute sur les genoux.
C'est Nanouk !
Il est revenu. Outak le serre bien fort dans ses bras et plonge son nez dans sa belle fourrure grise. Grâce à son flair, un chien de traîneau ne se perd presque jamais sur la banquise. Même en pleine tempête.
Il a dû quand même avoir très froid, le pauvre.
Non, petit Pierre. Il a une fourrure très épaisse. Et quand il y a trop de vent, tu sais ce qu'il fait ? Il se roule en boule et cache sa tête dans ses pattes. Comme ça, rien ne dépasse. Outak donne à manger à Nanouk. Tout à l'heure, ils vont repartir et pour tirer le traîneau, il lui faudra des forces. Le petit garçon aussi a une faim de loup. C'est l'heure du petit déjeuner. Les papas ont pêché un gros phoque hier. Alors les enfants ont droit à un bon morceau de viande crue.
Du phoque cru au petit déjeuner ? Ah ! Jamais je pourrais avaler ça.
Moi non plus. Mais c'est parce qu'on n'en a pas l'habitude. C'est le meilleur plat pour résister au grand froid, tu sais. C'est bourré de vitamines.
Mon bol de chocolat aussi est bourré de vitamines.
Le traîneau est enfin prêt à repartir. Nanouk est très fière. Car le papa d'Outak lui a dit en lui caressant la tête
« Tu es jeune, mais drôlement costaud, toi. Tu seras un grand chien de traîneau. »
Le papa de Zachary essaie de démarrer sa motoneige. Mais après quelques hoquets, elle s'arrête.
Impossible de faire repartir le moteur. On dirait qu'il a pris froid cette nuit.
Alors, c'est le papa d'Outak qui doit les ramener sur son traîneau.
Finalement, non, c'est mieux le traîneau. Parce que les chiens, eux, ils tombent jamais en panne.
Tu as raison, petit Pierre. Et en plus, ils connaissent les chemins les plus sûrs, là où la glace est la plus épaisse. Le traîneau glisse à présent silencieusement sur la banquise, sur ce beau paradis blanc.
Maintenant, nous allons écouter Kenji Girac, Color Ritano. C'est parti.
C'est une façon de voir la vie, un peu plus grande qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis. Un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur. Color gitano. Gitano. El color de mi cielo. Ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano,
el color de mi cielo.
De Marlène Jobert, le hérisson.
Ce bruit-là, petit Pierre, tu sais ce que c'est?
Peut-être un
animal qui farfouille dans les feuilles.
Bravo! En effet, c'est un hérisson. Plus exactement, une hérissonne. Elle cherche un nid pour installer ses bébés qui vont bientôt naître.
Ici, dans le creux de l'arbre, tiens. Oh non, non, il y a plein de courant d'air. Là, peut-être, oui, sous le tas de bois près de la grange. Oh non, il y a déjà une maman.
C'est que tu vois, les hérissonnes préfèrent rester solitaires avec leurs bébés.
Ah, voilà, ça y est. J'ai trouvé un endroit discret sous le noisetier. Je vais ramasser des feuilles, les entasser pour fabriquer un bon matelas, un joli bout de tissu tout doux pour tapisser le sol. Maintenant, mes petits peuvent arriver.
Cette nuit, trois petits hérissons sont nés. Et ils sont mignons, tout roses et minuscules, pas plus gros qu'une prune. Il y a Gaston, Léon et Clémentine. Leur maman les lèche tendrement.
Ils n'ont pas de piquant ?
Si, une centaine, mais tout petits, tout mous et blancs. Et quand les hérissons grandiront, les petits piquants tomberont et seront remplacés par plein d'autres, 7000, beaucoup plus durs et marrons.
Ça fait comme quand je perds une dent.
Exactement, petit Pierre.
Tu crois qu'il y a une petite souris qui passe pour leur laisser une pièce?
Ah, tu imagines le travail de la petite souris? Sans piquant. Toute la journée, les bébés hérissons têtent leur maman. Au moindre bruit suspect, la maman attrape ses petits dans sa gueule et les déplace dans un lieu plus tranquille. Ce matin est un grand jour. Gaston, Léon et Clémentine ont tout juste un mois et ils sont assez grands maintenant pour faire leur première sortie. Les voilà donc en promenade à la queue leu-leu pour ne pas se perdre. De temps en temps, leur maman se retourne pour voir s'ils la suivent bien.
Léon, tu es encore en train de traîner. Dépêche-toi!
Léon s'est arrêté. Que regarde-t-il donc dans la haie? De jolies petites boules roses, vraiment très appétissantes. Des framboises.
J'adore ça, moi, les framboises.
Il n'y a pas que toi. Toujours, Léon reste en arrière. Tout l'intéresse, tu comprends? Une araignée qui tisse sa toile entre deux brins d'herbe, des fourmis qui transportent des brindilles, le saut d'une sauterelle, tout! Dans la clairière, la maman parle à ses petits de leurs ennemis. Oh, ils ne sont pas très nombreux. Qui voudrait avaler une pelote d'épingle? Mais il y en a pourtant. Le hibou grand-duc, par exemple.
Mais il ne se pique pas avec les piquants, lui?
Non, il s'en fiche. Il avale le hérisson et recrache les piquants. Maintenant, les hérissons ont 2 mois. C'est le moment pour eux de quitter leur famille. De partir à l'aventure, chacun de leur côté. La maman les regarde s'éloigner avec un petit pincement au cœur. Elle s'inquiète un peu. Surtout pour Léon. Il est tellement distrait, celui-là. Pour son premier repas en solitaire, Léon croque un gros hanneton.
Waouh ! Ça mange les hannetons, les hérissons ?
Ils adorent les insectes. Tous les insectes. Fourmis, mille-pattes, mouches, et même les escargots et les araignées. Soudain, Léon voit tout près une ombre bouger. C'est une vipère.
Oh, il va se faire piquer.
Non, non, rassure-toi. Sa maman lui a appris à se défendre. Et ce jour-là, Il a bien écouté.
Pour échapper à une vipère, tu te mets en boule. Et si elle s'approche tout près de toi, tu lui roules dessus et c'est elle qui sera piquée.
Léon poursuit son chemin en se dandinant. Bientôt, il arrive devant un jardin potager et aperçoit de belles et appétissantes limaces qui grignotent les salades. Ah, la belle limace, surtout bien dodue. Il l'aime encore plus que le hanneton.
Mon papy, il est content d'avoir un hérisson dans son jardin, parce qu'il mange toutes les limaces et les escargots.
C'est pour cela qu'on appelle le hérisson l'ami du jardinier. Avec lui, pas besoin de mettre de produits chimiques. Comme tous les hérissons, Léon est curieux. Il marche, le museau au vent, et arrive finalement tout près d'une grange. Peut-être y trouvera-t-il pour son dessert quelques pommes en train de sécher, qui sait. Mais à peine a-t-il franchi la porte que vlan ! Un coup de vent la referme sur lui. Le voilà prisonnier. Pauvre Léon, comment sortir de là maintenant? Il fait tout noir. Que lui avait-elle recommandé de faire, sa maman, dans ce cas-là? Ah, il a beau se creuser la cervelle, il ne s'en souvient pas. Ce jour-là, il aurait dû mieux l'écouter, tu vois. Il y a bien une fenêtre ouverte, mais elle est si haute. Oh, oh là là! Allez, de toute façon, il n'a pas le choix, hein. Mais que c'est haut! Ça y est, le voilà enfin sur le rebord de la fenêtre. Mais s'il saute dehors, il risque de se casser une patte. Que va-t-il faire? Et là, il se souvient avec précision cette fois de ce que lui avait dit sa maman.
Tu te mets en boule et tu te laisses glisser jusqu'en bas.
Et en effet, en un clin d'œil, il atterrit sans se faire mal sur l'herbe.
Dis donc, il sait en faire des trucs, ton hérisson.
Oui, et il sait aussi nager et courir. Un vrai sportif. Léon marche, 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 marche dans la campagne et arrive au bord d'une grande route avec des voitures qui foncent dans les deux sens. Zoom, zoom, zoom. Oh, comment passer de l'autre côté? Il fait nuit maintenant. Et les phares l'éblouissent.
Ne traverse pas, Léon, attention!
C'est sa maman. Comme il est content de la retrouver. Elle avait oublié de lui parler du tunnel pour hérisson qui passe sous l'autoroute. Et elle l'attendait là pour le lui montrer.
Un tunnel pour hérisson? T'es sûr?
Sûr. Ils étaient si nombreux à se faire écraser, les pauvres, qu'on leur a construit des tunnels.
Ah, ah alors ça, si c'est vrai, c'est très sympa.
Une fois parvenu seul de l'autre côté, Léon fait un dernier signe d'adieu à sa maman. Il sait qu'il est trop grand maintenant pour vivre sous sa surveillance. Alors, il s'en va. Quelques semaines plus tard, c'est l'automne. Les feuilles sont presque toutes tombées. Et il n'y a plus grand-chose à grignoter. Léon commence à avoir froid aussi.
Son manteau d'épines n'est pas assez chaud?
Eh non. Le hérisson n'a presque pas de poils sur la peau, tu vois. C'est le moment de chercher un petit coin tranquille pour passer l'hiver. Un fagot de bois recouvert de mousse, un tas de feuilles mortes, un endroit le plus confortable possible.
Il dort tout l'hiver comme l'ours et la marmotte ?
Il se réveille de temps en temps, parfois même il change de nid pour se mettre dans un endroit plus sec. Léon se glisse sous sa couette de feuilles, se roule en boule et s'endort. Bonne nuit, Léon.
Bonne nuit, Léon.
Et voilà, c'est terminé. Rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir.